Vous écoutez France Culture.
Deuxième temps d'une semaine de la Fabrique de l'Histoire, conçue autour du programme de CAPES et d'agrégation d'histoire, nouvelles questions d'histoire moderne, les affrontements religieux en Europe du début du XVIe siècle au milieu du XVIIe siècle. Eh bien, nous traitons donc de guerre de religion en particulier. Hier, notre invité était Denis Crouzet pour la publication à venir dans une quinzaine de jours de son livre « Dieu, ancien royaume, une histoire des guerres de religion » chez Champvallon. Demain, nous traiterons de l'invention d'une origine française du protestantisme à travers l'exemple en particulier des Vaudois, avec Yves Kromenacker et Patrick Cabanel. Jeudi, le débat historiographique portera sur les relations entre religion chrétienne et religion musulmane et l'exemple de l'affrontement avec les Turcs. Et aujourd'hui, le documentaire de Perrine Kervran, réalisé par Véronique Lamandour, descendant de Huguenots, descendant d'exilés, se souvient qu'effectivement, 2 à 300 000 Huguenots ont quitté à la fin du XVIIe siècle la France pour pouvoir rejoindre l'Allemagne, la Suisse, la Grande-Bretagne, la Belgique, la Nouvelle-Zélande ou encore l'Amérique ou l'Afrique du Sud. Ces Huguenots, au profit donc du bicentenaire de la révocation de l'édit de Nantes, ont aujourd'hui créé des sociétés huguenotes, en particulier des sociétés qui sont très versées dans la généalogie et qui reviennent en France pour pouvoir mieux comprendre d'où sont issues ces familles. Un documentaire donc de Perrine Kervran et de Véronique Lamandour avec les témoignages de Michel Magdelaine, de Barbara Julien, de Cornélie et Gertrude Dupuis, de Martin Harcourt-Williams, de François Carpentier-Alting, de Wendy Bennett, de Joupe Lagros et de Thierry Dupaquier.
Bienvenue à tous et à toutes. Bienvenue en particulier à nos frères et sœurs de Hollande qui sont normalement 18 parmi nous ce matin de Notre-Dame, c'est notre table, sur les traces de leurs ancêtres huguenots. Alors je vais leur demander de se signaler en levant le bras. Voilà.
Donc Barbara Julien, là, on est rue, alors que je cherche un panneau, on est Threadneedle Street, donc c'est la rue où se tenait l'église huguenote.
Oui, exactement. C'est devant nous, nous avons une plaque bleue. Où c'est marqué que c'est le site de l'église protestante française qui fut démolie en 1840 lors de l'agrandissement des bâtiments de la Banque d'Angleterre. Donc c'était ici où la congrégation d'abord wallonne et ensuite huguenote et wallonne sont rencontrées pendant ça va faire plus de 300 ans, 1550 jusqu'à 1840, presque 300 ans de culte ici, sur ces lieux.
Descendants de Huguenots, descendants d'exilés.
Eh bien, la première chose à dire, c'est combien je suis heureuse de vous accueillir ici. Parce que vous êtes nombreux, fidèles, et peut-être certains d'entre vous descendent-ils de protestants rochelais. Peut-être pas. Non. Parce qu'il y a eu des liens privilégiés entre La Rochelle et les Provinces Unies tout au cours de l'histoire. D'abord des liens purement commerciaux, et puis après de grands liens religieux, puisque notre région synodale, au moment de la révocation, comptait à peu près 75 pasteurs. 25 de ces pasteurs sont allés en Angleterre après la révocation de l'édit de Nantes et 27 sont allés dans les provinces. Alors, je vous propose une visite commentée. Nous avons M. Bouc, que vous connaissez, dont vous avez fait la connaissance tout à l'heure, Mme Jacqueline Giraud, qui viennent ici et qui sont des guides dévoués du musée.
Bon, le refuge, c'est à la fois le groupe de personnes qui s'établit dans un pays et le pays dans lequel ce groupe de personnes s'établit après avoir fui la France. On parle ainsi du refuge anglais, c'est-à-dire les Huguenots réfugiés en Angleterre, du refuge suisse, du refuge allemand, etc.
En Grande-Bretagne, aux Pays-Bas, en Allemagne, en Suède, en Afrique du Sud, en Nouvelle-Zélande, aux États-Unis et ailleurs, on trouve des familles qui ont des noms français. Des Justel, des Mangin, des Courtois, des Échausier, des Camier, des Duchesne, des Casaubon, des Verneuil, des Bouhereau ou des Maillerie. Ces noms sont quelquefois le témoignage d'une émigration très ancienne de protestants français. Parfois, ceux qui portent ces noms, intrigués par leur sonorité, ont retracé leur arbre généalogique et ont retrouvé les chemins pris par leurs ancêtres en fuite. Parfois aussi, ils adhèrent à des sociétés huguenotes qui font revivre cette histoire désormais très ancienne et d'autant plus oubliée que les protestants sont pour la plupart parfaitement assimilés. Et souvent, avec ces sociétés, ils voyagent dans ces pays du refuge sur les traces de ces lointains ancêtres. Ils sont les héritiers des guerres de religion qui ont ravagé la France entre le XVIe et le XVIIe siècle et témoignent des itinéraires de cette diaspora huguenote qui a essaimé à travers le monde dès les premières persécutions contre les réformés, et ensuite, massivement à la suite de la révocation de l'édit de Nantes par Louis XIV, qui mettait fin à une cohabitation plus ou moins pacifique. Cet édit obligeait les pasteurs à quitter le territoire, et tous les protestants à se convertir. Il a donné naissance à un culte clandestin, qu'on a appelé le désert, et à un exil, qu'on a appelé le refuge. L'historienne Michèle Magdelaine s'est consacrée à cette histoire du refuge.
Il leur est interdit de quitter le royaume. Depuis 1669, c'est interdit. Au départ, il y a même eu des peines de mort qui pouvaient être infligées. Bon, ça n'a pas été fait, ça n'a pas duré. On a infligé les galères et l'emprisonnement. Il est interdit de sortir du royaume parce qu'on est considéré alors comme un sujet rebelle. Ceci dit, quand le roi va révoquer l'édit de Nantes, donc en octobre 1685, l'édit est signé le 18 octobre à Fontainebleau et est enregistré par le Parlement de Paris le 22 octobre, c'est-à-dire très rapidement. Là, beaucoup de protestants, malgré un article douteux qui dit qu'on peut toujours pratiquer la dévotion privée, ce qui est un leurre dans la réalité, beaucoup de protestants vont estimer qu'ils ne peuvent pas vivre ainsi partagés, c'est-à-dire officiellement catholiques, ils ne peuvent pas rester protestants, officiellement catholiques, mais bien sûr en réalité pas du tout. Donc ça porte une atteinte profonde à ce qu'ils sont, à leur personnalité, à leur dignité, et ils décident de partir. Alors, le nombre exact, je pense qu'on ne le saura jamais, parce qu'il faudrait pouvoir dépouiller toutes les archives qui existent, et même ainsi, on n'aurait pas tout. Mais disons que sur pas tout à fait 800 000 protestants dans le royaume à cette époque, d'après les dernières études qui sont celles de l'historien américain Philippe Bénédicte, à peu près 25% de protestants sont partis du royaume. Alors sont partis en affrontant des dangers très grands, la prison, l'enfermement dans des couvents pour les femmes, les galères pour les hommes, voire la mort dans certains cas, pour des gens qui étaient partis déjà et revenus chercher des coréligionnaires.
Et vous avez l'impression, Michèle Magdelaine, que finalement ces protestants qui ont décidé de quitter le royaume avaient déjà en tête précisément les endroits où ils pouvaient aller, où ils seraient susceptibles d'être accueillis ?
D'abord, pour la plupart, ils pensaient que le roi se rendrait compte de l'erreur fondamentale qu'il avait commise et qu'il reviendrait sur cette signature et donc qu'il pourrait rentrer dans le royaume. Ils ne voulaient donc pas partir très loin. Alors pour ça, la Suisse leur paraissait tout à fait propice. Et si quelques-uns, parmi les plus aisés sans doute, ont eu l'idée d'aller assez loin, la majorité ne voulait pas partir très loin. Et c'est seulement, même s'ils ont été poussés à le faire assez tôt, mais c'est seulement à partir de 1697 et de la signature de la paix de Ryswick qui officialise le nom du roi de revenir en arrière, de changer sa politique, qu'ils se décident à rester dans les pays du refuge. D'autre part, les pays qui les reçoivent, la Suisse pour commencer, n'est pas un pays riche, et la Suisse n'est pas un pays riche à l'époque, les accueille mais ne peut pas les garder, en tout cas pas tous, et va donc les pousser vers le nord, c'est-à-dire vers l'Allemagne. En Allemagne, où presque tous passent par la ville de Francfort sur le Main, qui ne les accueille pas. Francfort est une ville luthérienne qui se méfie beaucoup des calvinistes, même s'il en reste quelques-uns, c'est infime. Mais l'église française calviniste de Francfort, qui existe depuis le milieu du XVIe siècle, les accueille, les aide, les soutient, les nourrit, les loge, les soigne quand c'est nécessaire, et organise des départs vers d'autres pays du refuge, alors, des principautés allemandes, bien sûr le Brandebourg, c'est bien connu, mais aussi beaucoup la Hesse Cassel ou d'autres petites principautés, et puis vers les Provinces-Unies, et de là vers l'Angleterre, vers d'autres pays encore.
Martin Harcourt-Williams, descendant de Huguenots du Lot et Garonne, membre de la Société Huguenote de Grande-Bretagne et d'Irlande.
L'histoire chez nous, c'est que les protestantes du Lot et Garonne sont venues en Angleterre. Il y a deux générations qui sont venues, et les deux générations ont retourné en France en 1670 vers. Ma mère était française protestante. Alors c'est comme ça qu'on a fait beaucoup de recherches du côté français et qu'on a trouvé cette histoire. Première génération, c'était un monsieur qui s'appelait Bernard Frontin. Et il est venu en Angleterre en 1678 à peu près. Et alors lui, il est retourné en France et puis il s'est marié là-bas. Et prochaine génération, enfin, ils ont dit ben, il faut venir en Angleterre pour faire la religion. Alors, eux, il y a deux entre eux qui sont venus ici. Il y a une sœur, la plus jeune, qui habitait à Hammersmith, et nous avons son testament. Pierre a passé une vingtaine d'années à Londres, et puis il est allé à Lisbonne. Malheureusement, après encore une vingtaine d'années, il a perdu sa femme et il a perdu 4 des 7 enfants qu'il avait. Il voulait retourner en France s'il pouvait. Alors, nous ne savons pas exactement le contact qu'il a eu et il est revenu en France. Il est revenu chez lui, tout près d'Agen, et on croyait que tout allait bien. Seulement, l'évêque d'Agen, l'évêque Chabanne, je crois c'est son nom, a découvert que cet infidèle est retourné en France. Alors, on a eu toute une histoire avec cet évêque d'Agen. Il ne voulait pas qu'il revienne en France. C'était 1750.
Il y a eu un premier refuge au XVIe siècle qui a commencé après le massacre de Vassy et qui s'est surtout développé après la Saint-Barthélemy. Mais au moment de la signature de l'édit de Nantes, beaucoup de ces fugitifs sont rentrés dans le royaume. Et puis ça ne touchait pas tout à fait les mêmes populations. C'était plutôt une population de gens, disons lettrés si vous voulez, ou de marchands. Alors qu'en 1685 et les années suivantes, c'est vraiment la majorité, enfin, ça touche, si vous voulez, toute la population protestante, aussi bien des nobles que des notables de toutes sortes, que des artisans, voire des paysans. Mais ce sont surtout les Wallons qui sont partis et qui, eux, ne sont pas rentrés au XVIe siècle. Les Wallons, c'est-à-dire les habitants du sud des Provinces-Unies de l'époque, et qui ont été forcés de se convertir au catholicisme. Beaucoup sont partis, se sont établis en Rhénanie, dans le Palatinat en particulier, mais plus au nord aussi, dans les Provinces-Unies du Nord, qui, elles, ont fait sécession avec les Provinces-Unies du Sud et sont restées protestantes. Et là, ils ont fondé des églises qui sont d'ailleurs des églises wallonnes. On les appelle au départ improprement françaises, Parce que, par exemple, l'église de Francfort, au départ, c'est une église wallonne. Les églises du Palatinat sont des églises wallonnes. Alors, c'est en effet des structures qui existent déjà et qui vont accueillir des huguenots, mais c'est, disons, relativement peu.
Et est-ce que vous pouvez, justement, Barbara Julien, nous rappeler la naissance de cette église protestante française en Angleterre et notamment à Londres ?
L'église de Threadneedle Street, qui était l'église mère, fut créée au fait en 1550, c'est-à-dire lors de la première vague de réfugiés qui sont eux venus de la région limitrophe autour de la France et la Belgique. Des villes comme Cambrai et Valenciennes ne faisaient pas partie de la France. Maintenant, ils en font partie. C'était des Wallons. Et l'édit d'accueil fut promulgué par Édouard VI, donc le frère d'Élisabeth Ier, qui a succédé à son père Henri VIII, et donné à tous les étrangers, qu'ils soient italiens, allemands, français, protestants, la liberté d'association et de culte. Et donc, cette église à Londres fut suivie par des églises wallonnes à Norwich, à Southampton et à Canterbury. Et c'était donc les premiers réfugiés protestants qui peuplaient, qui faisaient la communauté, la congrégation de ces églises. Lorsque les réfugiés, strictement parlant, huguenots, sont venus à partir de 1681, soit lors des dragonnades ou en 1685, lors de la révocation, il y avait déjà ces églises d'accueil. Ils étaient connus sur le continent. Elles étaient connues sur le continent, d'ailleurs. Et ils étaient assurés d'un endroit où aller en premier lieu. Par la suite, il y a eu jusqu'à, je crois, 14 temples dans le East End de Londres et autant dans le West End de Londres, sans compter d'autres à travers tout le pays et même jusqu'à Édimbourg en Écosse et en Irlande, évidemment.
Donc, il y avait une très forte présence française à Londres, en tout cas au XVIIe siècle, au XVIIIe siècle.
Très forte. On dit même qu'à Spitalfields, on n'entendait parler que français. Et si vous vous promenez à Spitalfields aujourd'hui, qui n'est pas très très loin d'ici, vous verrez encore des noms qui rappellent cette présence et même le style des maisons, hein, si j'ose le dire. Il reste encore deux temples d'origine. Un qui est un synagogue et l'autre une mosquée maintenant. Mais ce sont les bâtiments d'origine de temples huguenots. Hein. Et oui, il y avait une forte population française de réfugiés. Je crois d'ailleurs il était devenu nécessaire pour garder la bonne opinion de leur côté de donner de l'argent à certains, ce qui s'est fait d'ailleurs pour aller s'établir soit à Thorpe les Circons, soit à d'autres endroits hein, pour soulager un petit peu la population de réfugiés dans la capitale. Mais dans l'ensemble, ils étaient bien accueillis, ça c'est sûr.
Joupe Lagros, descendant de huguenots de Picardie, membre de la Société huguenote des Pays-Bas, de passage à La Rochelle sur les traces du protestantisme.
Avant mon mariage, j'étais encore auprès de mes parents, chez mes parents, oui. Et un soir, on a sonné, et c'était lui. Il s'est présenté, il a dit « Je m'appelle Robert Lagros, hein, et je suis en train d'examiner nos descendants, on peut dire. Hein, oui. Et puis, je vous demandais quelque chose, comme ça. Hein, ça a commencé comme ça.
Ouais. » Et donc, il vous a appris des choses sur votre famille ?
Oui, oui. Ils ont fui Paris juste avant la Saint-Barthélemy, hein, dans la nuit de 23 au 24 août 1572. Et ils se sont installés en Picardie, mais à un moment donné, ce n'était plus sûr en Picardie non plus. Donc, ils se sont fuis pour la deuxième fois vers le nord. Ils se sont installés à un moment donné, on peut dire, dans la province la plus méridionale de notre pays, la Zélande. Oui. Et de là, hein, ils ont fui toujours vers le nord. Hein. Ils se sont installés à un moment donné à Rotterdam, à La Haye. et peut-être aussi dans d'autres parties de notre pays.
Et donc, quel était le nom français de cette famille?
C'était Lagros, oui, Lagros. Hein. Et on m'a dit, mais je ne suis pas sûr, que c'est une toute petite rivière en Picardie, hein, mais je ne suis pas sûr.
Alors, le refuge aux Pays-Bas, pour commencer, enfin non, aux Provinces-Unies, a été très important puisque les Provinces-Unies sont qualifiées de grande arche du refuge. C'est là en particulier que la plupart des grands intellectuels se sont retrouvés, énormément de pasteurs aussi. Beaucoup de ces intellectuels étaient employés à l'université de Leyde.
Michel Magdelaine.
Alors, en Angleterre, c'est tout à fait différent, c'est beaucoup plus varié. Et puis, il y a la situation religieuse dans l'Angleterre qui est aussi très différente. Il y a ceux qui vont se réunir à l'église anglicane et qui vont être donc conformistes. Et puis, il y a ceux qui refusent et qui sont les non-conformistes. À Londres, où ils sont de loin les plus nombreux, il y a à la fin du XVIIe ou tout début du XVIIIe siècle, 14 églises protestantes françaises, la moitié conformiste, l'autre moitié non conformiste. Et là, vous avez toutes les couches de la population qui sont réunies. Vous avez aussi Canterbury, qui est une église non conformiste, qui existe déjà depuis le XVIe siècle, et l'église wallonne au XVIe siècle, et qui est tout à fait importante. Et puis, vous allez en trouver dans toute l'Angleterre, bien sûr. Un phénomène typiquement anglais, c'est que la société britannique à cette époque-là est une société très assimilatrice. Donc ceux qui choisissent, par exemple, de se conformer, en particulier les pasteurs qui vont demander un poste, on va les nommer aussi bien dans des églises anglicanes. Il faudra donc qu'ils se mettent à l'anglais très vite. Les autres, ils s'arrangent entre eux.
Il faut se souvenir d'une chose, c'est que le roi Charles II était le premier à lancer l'idée. Il a
Barbara Julien.
Lancé une souscription de ce qu'on appelle the royal bounty, c'est-à-dire la bonté royale. Tous les aristocrates et d'autres ont donné légué de l'argent ou donné de l'argent. Mais cet argent n'était disponible que pour les congrégations qui faisaient partie de l'église anglicane. Ceux du West End de Londres qui gravitaient autour de l'église du Savoy, beaucoup d'entre eux sont venus d'Hollande avec Guillaume d'Orange, sont devenus d'emblée anglicanes. Beaucoup des pasteurs qui ont quitté la France ont pris des ordres dans cette église. Donc il y avait cette assimilation naturelle qui s'est faite là. Ceux qui sont restés à Spitalfields et qui ne sont pas devenus partie de l'église anglicane dépendaient de la largesse et de la bonté des membres riches de l'église de Threadneedle Street, qui elle est toujours restée calviniste. Et son descendant linéaire qui se trouve maintenant à Soho Square, parce qu'il y a une expropriation à cause de la Banque d'Angleterre qui a agrandi ses locaux.